Ok, bienvenue à nouveau sur Onda Bulle 93.3 sur Radio Campus. Nous sommes en présence de Ulysse Malassagne.
Bonjour.
Voilà, on est au salon donc de Roya Chamalières, le nouveau salon du livre qui ouvre ses portes pour la première fois. Ulysse, donc tu fais partie des premiers invités, tu es donc un auteur de bande dessinée, tu es l'auteur de Jade et de Kéros. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi parlent ces deux albums ?
Oui, alors Jade parle, est plus une bande dessinée d'aventure dans le genre de Spirou ou Tintin, avec un aventurier occidental un peu colonialiste qui se retrouve dans un monde, en Asie, quoi, là, en l'occurrence au Tibet. Et puis bah, il est à la recherche d'un trésor et il va lui arriver des aventures comme ça. Kairos, c'est plus une BD, on va dire, d'heroic fantasy, avec des dragons, une princesse et un espèce de chevalier qui va aller la sauver. Enfin, j'essaie de jouer en tout cas avec ces codes-là. Voilà, c'est une BD assez référencée parce que j'y mets un peu toutes les influences que j'ai.
Ok, très bien. Ce qui saute aux yeux quand on lit tes albums, c'est vraiment ce travail de la mise en scène qui est extrêmement travaillé, voilà, qui a travaillé, il n'y a pas d'autre mot. Je me demande si c'était lié à ton passage à l'école donc des Gobelins, qui est une école très réputée sur l'animation et les découpages. Mais même si les autres albums d'autres auteurs qui ont pu sortir de l'école, c'est peut-être pas autant travaillé. C'est vraiment un aspect qui t'intéressait peut-être ?
Ouais, c'est un aspect qui m'intéressait et que j'essayais de travailler en tout cas avant même d'entrer aux Gobelins. Moi, j'ai eu un peu tendance à voir, dès que j'ai commencé à faire de la BD, à les voir comme si je faisais des films, en fait. Et du coup, à les mettre en scène un peu de cette manière-là, avec peut-être beaucoup de mouvements et tout. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai fini par aller vers le dessin animé. Et qu'effectivement, du coup, après, dans cette école, j'ai pu apprendre un peu plus de techniques de mise en scène, de travailler le mouvement et tout. Et ça a forcément servi après pour les mises en scène de mes bandes dessinées, ouais.
Autre chose qui est assez remarquable sur tes deux premiers albums, ils sont sortis avec quasiment deux mois d'écart. Je suppose que tu as dû les travailler tous les deux ensemble. Comment tu peux expliquer un peu ce fonctionnement de travail ?
Ouais, c'est une histoire un peu compliquée, le fait qu'ils soient sortis en même temps, parce que c'est pas complètement voulu. J'avais signé Jade avec un premier petit éditeur qui a coulé au moment où je terminais l'album, en fait. Je me suis mis à la recherche d'un autre éditeur. Entre temps, j'ai signé un contrat pour Kairos avec Ankama. Et puis finalement, Glénat m'a proposé de reprendre Jade. À ce moment-là, j'avais déjà pas mal avancé Kairos, donc j'ai dû faire quelques modifications pour rajouter 15 pages, par exemple, sur l'album de Jade pour que ça corresponde à ce que Glénat attendait. J'ai fini les deux en même temps, finalement, comme ça, quoi. Mais ça a été pas mal de boulot et j'en ai un peu souffert à ce moment-là, parce que en plus de ça, je faisais un peu d'animation à côté. Les 3 ans après la sortie de l'école, là, ça a été 3 ans intenses, on va dire.
Ça a dû faire pas mal de nuits blanches, je suppose.
Exactement. Ouais.
Justement, tu travailles aussi dans l'animation. Parmi les auteurs qui sont invités, il y avait Guy Delis, que je crois que tu es allé voir. C'est un auteur que tu connaissais déjà un petit peu ou pas du tout ?
Oui, et c'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'adore. Effectivement, il fait de l'animation, donc on a eu pas mal de choses à se raconter, parce que voilà, on connaît tous les deux un peu le milieu. Lui, maintenant, il fait beaucoup de bandes dessinées, de ce que j'ai compris, et plus beaucoup d'animation. Et c'est son travail en bande dessinée, de façon que moi j'admire énormément, parce qu'il y a ses carnets de voyage qui m'ont un peu inspiré aussi, mine de rien, parce que moi j'ai envie d'essayer de me mettre à ça aussi et faire ce genre de choses autobiographiques un peu. J'ai eu beaucoup de plaisir à le rencontrer et à discuter avec lui, parce que voilà, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire énormément.
D'accord, très bien. Sur Jade, donc on est sur une histoire vraiment d'aventure, comme tu l'as bien signalé. C'est aussi donc un sujet, c'est le Tibet qui est évoqué. Tu fais effectivement donc référence un peu à l'occupation chinoise, notamment dans les notes que tu expliques un peu à la fin. C'était un choix de parler de ce sujet-là, ou c'était un sujet qui t'intéressait, ou c'était justement parce que le contexte était intéressant pour l'histoire qui t'a amené à ça, ou c'était vraiment un choix particulier, en fait?
C'est assez complexe. Enfin, je me suis posé beaucoup de questions à ce propos-là, parce que quand j'ai commencé à faire Jade, en fait, c'était une espèce de défi que je faisais à moi-même. Je voulais faire une BD d'aventure et sur le coup, j'ai un peu sélectionné une ambiance d'aventure, en fait, en me disant tiens, le Tibet, c'est pas mal, il y a une espèce de contexte qui permet d'avoir les Chinois qui on peut taper un peu dessus, un peu comme les je sais pas, les nazis dans Indiana Jones, des choses comme ça. C'était surtout essayer de retrouver ce contexte un peu cliché d'aventure, quoi, d'histoire d'aventure. Et donc après coup, quand on m'a proposé d'en faire un album, je me suis retrouvé à me demander est-ce que je garde ce contexte-là, et est-ce que j'assume complètement le fait de faire un truc très très justement un peu cliché, un peu voilà, ou est-ce que je parce que moi je suis jamais allé au Tibet, c'est un pays qui me fascine pas mal, c'est pour ça aussi que j'avais pris ce contexte-là. Mais j'y connaissais pas non plus grand chose, quoi. D'autant que la situation là-bas est hyper complexe, c'est très 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 compliqué politiquement. Et puis bon, bah je me suis dit bon bah allons-y, je vais me prendre 20 bouquins d'histoire et je vais me refaire l'histoire du Tibet et tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis renseigné, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Et donc j'ai assumé le fait que voilà, c'est une vision volontairement caricaturale, parce que il y a ce personnage qui est plein de préjugés, qui est très colonial, voilà, et puis finalement les Chinois que je fais tout jeunes avec leurs grandes dents, c'est sa vision à lui, quoi, en fait, c'est ça.
Ouais, c'est un cliché.
Exactement. Cliché du Chinois, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'était pour que ça soit cohérent par rapport à ce personnage-là, et donc voilà. Et ensuite, je me suis dit que j'avais peut-être pas complètement exploité toutes les recherches que j'avais faites, parce que je m'étais quand même beaucoup renseigné, du coup. D'où le petit carnet en fin d'album qui est un peu un petit supplément documentaire, quoi, pour essayer de resituer le contexte de l'histoire un peu. Ça m'a permis de rentabiliser un peu tous les bouquins que j'ai lus à ce sujet-là, quoi.
D'accord. On va aussi en passer un petit peu sur Kairos. Donc c'est prévu en 3 volumes, je crois.
Oui, c'est ça.
D'accord, donc le premier, c'est vraiment une introduction avec déjà beaucoup d'action où on va vraiment lancer l'histoire. Les personnages sont assez bien campés assez rapidement finalement. C'est vrai que tu joues beaucoup sur l'aspect un peu archétype de ces personnages, mais tu essaies quand même d'apporter ta propre création à ces personnages-là. Tu peux nous expliquer un peu comment est venue l'histoire ?
Ouais, là encore, c'est... J'essaie de jouer un peu avec les clichés de ce genre d'histoire, quoi. J'essaie de regrouper un peu les trucs qu'on peut trouver dans ce genre d'histoire d'amour chevaleresque, un peu avec ce garçon qui part à la poursuite de sa bien-aimée enlevée par des dragons et tout. Mais l'idée, c'est d'arriver à surprendre un peu le lecteur en jouant un peu avec ses attentes, quoi, justement. Des dragons qui sont peut-être pas aussi méchants qu'on pense, du personnage de Nils, le héros, qui est peut-être pas aussi chevaleresque qu'on le pense aussi, et la princesse qui est peut-être pas aussi en danger que ça. Et donc voilà, il y a cette idée-là de jouer avec ces thèmes-là qui sont un petit peu clichés. Donc c'est un des trucs que j'essaie le plus de faire avec cet album-là.
D'accord, très bien. Je terminerai avec une autre question aussi. Tu viens de l'animation, tu travailles encore dans le sujet d'ailleurs, je crois.
Oui. Je continue à... Alors, on a monté un petit studio avec des collègues de l'école des Gobelins, avec qui donc on avait fait un film de fin d'études ensemble. Et en sortant, on s'est dit qu'on avait envie de continuer à travailler ensemble, à développer des projets de dessins animés ensemble. Et donc on s'est réunis là il y a maintenant un an à peu près. On a monté notre petite structure qui s'appelle le studio La Cachette. Notre premier projet, ça a été de faire une bande-annonce animée pour Kairos, en fait. Voilà, parce que l'idée, c'est de réaliser vraiment nos projets personnels. Et voilà, on a chacun le nôtre. Bon, c'est le mien qui est sorti en premier, parce que voilà, on trouvait que c'était pas mal comme premier aperçu de ce qu'on est capable de faire, quoi. On voulait un truc un peu patate, un peu péchu. Maintenant, l'idée, c'est qu'on va travailler sur les projets de mes collègues, donc qui ont chacun leur histoire à développer. Ils vont tous faire un court métrage, et voilà, on va essayer de sortir des petites choses comme ça régulièrement.
Voilà. D'accord. Très bon travail. Alors, bonne chance pour le nouveau studio. Mais justement, donc la bande dessinée et l'animation, c'est deux métiers qui commencent vraiment à avoir énormément de rapports les uns avec les autres, où beaucoup d'auteurs sont des acteurs sur les deux tableaux. Comment tu expliques un peu cette nouvelle tendance qui est apparue finalement il y a une dizaine d'années, justement, avec beaucoup d'auteurs des Gobelins qui ont fini par travailler aussi en bande dessinée?
Donc il y a ça, effectivement, les animateurs qui décident de se mettre à la bande dessinée, probablement parce que une bande dessinée, ça permet de développer des projets plus personnels que l'animation, où on se travaille dans des gros studios et où du coup on est dans une machinerie, quoi, un peu. C'est bon, on fait pas un travail très personnel. Il y a aussi l'inverse, il y a les auteurs de BD qui sont dit, tiens, je vais faire un film d'animation. Là, il y a eu une tendance ces derniers temps avec Johan Sfar, Satrapi et tout ça, qui ont fait leur long métrage à partir de leur BD. Peut-être qu'on déjà on est en train de se rendre compte que le dessin animé n'est pas forcément un média pour enfants uniquement, ce qui était encore un peu le cas. Enfin, beaucoup de gens avaient encore cette vision un peu restreinte du dessin animé il y a 15 ans, quoi. C'était ce qui était le cas aussi à une période pour la bande dessinée. Donc, je sais pas, c'est des médias qui des arts qui arrivent à une certaine enfin, dans l'esprit des gens, en tout cas, c'est quelque chose qui enfin, c'est deux arts qui deviennent matures, quoi, vraiment, qui sont. Voilà, ça intéresse de plus en plus peut-être des auteurs d'essayer les deux. Voilà, je sais pas trop.
Écoute, la question reste en suspens. On verra
Voilà,
justement
c'est ça.
comment l'avenir
Pas
nous
de
dira la
réponse.
suite. Voilà. Une dernière chose. Donc, ce soir, il y aura aussi une carte blanche qui t'a été proposée par la librairie Mobi Manga et donc le cinéma Les Ambiances. Tu as choisi le film Princesse Mononoké. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur ce choix? Qu'est-ce qui t'a amené à prendre ce film-là de Miyazaki ou plus qu'un autre peut-être?
Ouais, il fallait que je choisisse un film qui soit une influence pour moi, pour mon travail. Donc, ça m'est assez vite venu en tête que c'était Mononoke qu'il fallait choisir, parce que c'est peut-être le dessin animé qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune, que j'ai découvert quand j'avais 10-11 ans, quelque chose comme ça. Et ça a été une révélation. Ça m'a donné envie de faire du dessin animé. Ça m'a justement montré que le dessin animé pouvait être un art mature et voilà, pouvait faire des histoires qui soient ambitieuses, adultes. Voilà. Donc j'avais l'impression de voir pour la première fois un dessin animé qui me prenait pas pour un idiot, quoi. Voilà, qui était ce que j'attendais d'un dessin animé, d'une histoire, d'une aventure. Voilà. Et donc voilà, du coup j'ai choisi Mononoke comme film. Bon, je sais pas ce que je pourrais mettre en parallèle de mon travail par rapport à ça, parce que c'est quand même une œuvre qui est magistrale, quoi. Mais c'est clair qu'elle m'a beaucoup influencé après dans ce que, dans, même dans, même dans parler de la mise en scène et du rythme, même à ce niveau-là, ça m'a beaucoup influencé, ouais. Parce qu'il y a, bah, y a un rythme très particulier dans les films de Miyazaki. Il a un sens du rythme, de l'action qui est vachement, vachement, vachement impressionnant, quoi. Et voilà, et donc j'essaye, ça se sent peut-être plus dans Kairos, parce que c'est une histoire un peu d'influence justement japonaise, enfin d'heroic fantasy façon japonaise, quoi. Mais ouais, voilà, c'est une grosse référence pour moi.
D'accord. Je verrais bien aussi une autre référence qui me semble importante, c'est que Miyazaki, on fait souvent allusion à Miyazaki pour son travail autour de la nature et quelque chose comme ça. C'est aussi quelque chose qui peut être présent dans Kairos, qui peut être présent dans Jade. C'est toi qui as vécu longtemps à Paris, puisque tu as été au Gobelin, est-ce que c'était un aspect quand même qui te semblait important de travailler dans tes histoires?
L'aspect naturel, ouais, complètement, complètement, parce que avant de vivre à Paris, je vivais dans le Cantal, qui est un peu moi, c'est cet endroit-là dont je m'inspire quand je fais des histoires aussi. C'est les montagnes, les monts du Cantal, les volcans d'Auvergne, tout ça. C'est un peu l'endroit où j'ai grandi, et c'est l'endroit où
C'est un endroit merveilleux, il faut le dire.
il faut le dire, c'est un endroit absolument magique. Oui, je suis terriblement chauvin avec ça. Ça
Tous
peut
les
être
Cantaliens
assez.
le sont, le soir.
Oui, c'est que d'avoir une raison en plus, hein, du coup. Non, et voilà. Et effectivement, c'est aussi un aspect que je retrouvais dans les films de Miyazaki, qui est cette espèce d'amour de la nature. Il fait des films très écologiques où les paysages ont une place très importante, tout ça, et ça me parlait forcément, parce que dans ma tête, moi, j'avais, bon, à ma mesure, mais c'était ce que je ressentais quand je me baladais voilà, dans les montagnes cantaliennes, quoi. Donc c'est aussi quelque chose que, effectivement, j'ai envie d'exploiter dans mes bandes dessinées. Je pense d'ailleurs que je ne l'ai pas encore assez fait, quoi. C'est-à-dire mes prochaines bandes dessinées risquent peut-être d'être plus tournées vers cet aspect naturaliste, on va dire. Parce que je me rends compte que c'est vraiment ça qui me passionne le plus, et c'est ça que j'aime dessiner. Voilà. Donc il faudra attendre les prochaines BD pour peut-être se rendre compte un peu plus de cet aspect-là de mon travail, mais voilà, c'est quelque chose que je vais exploiter.
Eh bien, écoute, c'est une très bonne nouvelle et merci encore pour ce petit moment donc entre nous. Bienvenue donc en espérant te revoir donc très bientôt sur les terres auvergnates. Et merci à toi.
Merci.
Merci à vous, à toi, à très bientôt et vive le Cantal.
Vive le Cantal, ouais.